Bonjour à tous, ça va bien?
Oui.
Merci Seigneur, c'est bien. Moi aussi. Quand il pleut ici, il pleut bien, hein? Mais là, on a été averti qu'il y a une tempête, hein, c'est spécial. Mais ça n'a rien à voir avec 99, c'est...
C'est une tempête,
ça va. Il n'y a pas d'arbre qui tombe encore, c'est bon. Nous allons lire dans le psaume 23, un cantique de David. Vous le connaissez tous. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Pas parce que je suis mieux que les autres, hein, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. On a un chant là-dessus d'ailleurs, il faudra qu'on le chante un jour pour le faire connaître à nos frères et sœurs qui viennent sur Révélation Vie. Bonjour les frères et sœurs qui viennent sur Révélation Vie. Vous avez été choqués avec la prédication de vendredi, tant mieux, c'est bien. Il ne faut pas toujours rester dans un confort religieux, ouateux, bien tiède. Il faut de temps en temps se poser des questions qui dérangent. Et je suis content de voir qu'il y a eu pas mal de réactions. Bon, il y a eu des réactions insultantes, alors celles-là je les ai enlevées parce que qui aime se faire insulter? Personne. Donc moi, les gens qui m'insultent, je vire. Voilà. Alors, donc dimanche passé, je vous parlais de quelques règles fondamentales pour avoir une bonne vie harmonieuse en tant que chrétien. Puis je vous ai dit que j'allais encore vous donner quelques règles. Et aujourd'hui, je vais vous en donner une qui est très importante. Vous vous rappelez, la première, c'était de lire la Bible chaque jour. Hein, vous vous en souvenez. La deuxième, c'était parler à Dieu chaque jour. Parce que quand on lit la Bible, c'est Dieu qui nous parle. Quand on prie, c'est nous qui parlons à Dieu. Et ça établit un dialogue parce que nous sommes dans un état de réception et d'ouverture. Et le Saint-Esprit peut nous parler. La troisième règle, c'est de compter sur le Saint-Esprit, pas seulement sur notre intelligence, aussi sur notre intelligence. Voilà. Mais notre intelligence renouvelée par le Saint-Esprit. Quatrième règle, c'était de persévérer dans la communion fraternelle. Je vous expliquais que rien dans la Bible nous montre que l'Église de Jésus-Christ est une Église de groupe de un. Des groupes de un. Alors, nous avons choisi. Alors, il y en a qui m'écrivent et qui me disent « Alors, les frères et sœurs du sanctuaire, comment ça va ?» Et ça fait 3 ans que c'est fini, le sanctuaire. Maintenant, c'est le phénix, parce que nous sommes renés de nos cendres. Hein. On appelait ça la communauté du phénix. Donc, arrêtez avec le sanctuaire, c'est terminé. On a tourné la page, on a acheté le bouquin, et on commence une nouvelle vie. Donc, rappelez-vous, hein, c'est la communauté du phénix, maintenant. Alors, parce que le phénix était aussi un symbole dans le christianisme primitif, parce que c'était une légende qui existait chez les païens, et les chrétiens prédicateurs s'en servaient pour expliquer aux païens ce que c'était que la résurrection, hein, de revenir à la vie. Vous connaissez l'histoire du phénix. Si vous ne connaissez pas, vous allez sur Wikipédia et vous trouverez. Donc, on a choisi, nous, de vivre selon les Écritures. On a été poussé par le Saint-Esprit. Quand on regarde en arrière, dans le rétroviseur de notre vie, on voit qu'on a été conduit par le Saint-Esprit à vivre selon le modèle biblique, le seul modèle biblique qui existe, c'est-à-dire l'Église était une communauté au départ, et personne ne peut contester ça. Il y en a qui disent que les apôtres s'étaient trompés. Au secours ! Les apôtres ne se sont pas trompés, c'est simplement l'amour du plus grand nombre qui s'est refroidi et qui a fait que ben voilà, les gens ne veulent plus vivre ensemble, ils peuvent vivre chacun dans leur caravane, dans leur HLM, dans leur pavillon de banlieue turque ou que sais-je. Donc nous avons décidé de vivre en communauté comme c'est écrit dans la Bible. Et le pourquoi de cette vie, eh bien, c'est pour que nous puissions appliquer la cinquième règle. Vous allez me dire, mais moi j'accomplis cette règle-là aussi. C'est bien, mais je vous assure que quand vous vivez en communauté et que vous impliquez la cinquième règle, les gens sont vraiment impactés. parce que vous avez un témoignage qui dure depuis des années et qui force au respect. Hier, nous avons reçu des amis chrétiens ici. Ils étaient stupéfaits de la qualité de notre vie spirituelle et de notre amour fraternel. Parce que le témoignage, c'est la cinquième règle pour avoir une bonne vie. Vous devez être un chrétien qui témoigne. Un chrétien qui témoigne. Vous savez, si vous pratiquez fidèlement les quatre premières règles que je vous ai données dimanche passé, la cinquième règle, elle viendra automatiquement. Automatiquement, elle viendra d'elle-même. C'est normal. C'est un peu comme une coupe, une coupe de champagne qui est pleine, et puis on continue à verser, puis ça déborde. Ça déborde. Et c'est ce que nous dit le psaume 23, verset 5, « Ma coupe déborde ». Alors je me rappelle que la sœur Camilla, elle disait « Ma coupe et ma soucoupe débordent ».« Ma coupe déborde ». Quand notre coupe déborde, ce qui est en nous coule sur les autres, influence les autres, impressionne les autres, impacte les autres. Le psalmiste l'a dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ça ne veut pas dire j'habiterai dans l'église, au coin de la rue tous les jours, non, j'habiterai dans la maison de l'Éternel, c'est-à-dire là où il y a la communion fraternelle. Parce que Jésus vit dans les frères et sœurs, et comme Jésus vit dans les frères et sœurs et que nous sommes tous dans une maison, eh bien c'est la maison du Seigneur puisqu'il vit là en nous. Et pas seulement le dimanche entre 10h et 11h30, mais tous les jours et la nuit aussi, nous avons nos chambres et chacun a son appartement. Mais nous savons que nous sommes tous là, on peut compter les uns sur les autres, quoi qu'il arrive, on est toujours là, prêt à s'aider, à s'entraider. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen.
Oui.
Ah ben voilà, ça c'est une bonne chose, c'est une décision et c'est aussi une joie, c'est une assurance. Mes frères et sœurs, c'est un mensonge que de croire qu'autre chose nous accompagne si nous observons les règles que je vous donne. C'est le bonheur qui m'accompagne, c'est-à-dire c'est le bonheur qui marche à ma droite tous les jours de ma vie. C'est ce que le psalmiste dit. C'est la grâce qui m'accompagne, c'est ce que le psalmiste dit. Il m'accompagne tous les jours, il marche à ma gauche. Et on est des copains, on marche, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie, et je marche avec eux, je vais de l'avant avec eux. Beaucoup de chrétiens me disent, je suis né de nouveau, mais les démons, quoi les démons? Ils sont vaincus au nom de Jésus. Les démons, c'est... Je suis l'ennemi des démons, c'est pas les démons qui sont mes ennemis, c'est moi qui suis l'ennemi des démons. Si les démons m'approchent, et qu'ils voient que j'arrive quelque part, ils disent, oh là là, attention, il y a Michel Janton qui arrive. Foutre le camp. Ils ne veulent pas m'accompagner. Parce que ce qui vit avec moi, c'est le bonheur et la grâce. Alors ils peuvent essayer de m'attaquer, mais ils sont vaincus au nom de Jésus. Ça, c'est ce que vous devez croire, c'est ce que vous devez confesser, c'est ce que vous devez dire. Parce que si vous dites toujours le contraire, ben c'est le contraire qui va vous arriver. Ça va être un démon qui va vous accompagner, ça va être un autre démon qui va vous accompagner, vous allez traîner toute votre vie du malheur et des problèmes et des machins. Mais il y a des problèmes et des machins et des difficultés pour tout le monde. Mais celui qui marche avec Dieu, il a le bonheur et la grâce qui marchent avec lui, et il résout ses problèmes par sa foi, par ses actes, par ses paroles, il est renouvelé dans son intelligence et il se sort de tout ça. On n'est pas fait, Dieu ne se plaît pas à nous regarder en train de nous traîner dans le malheur et les problèmes et les difficultés. Alors, c'est la grâce qui m'accompagne. Et partout où je vais, c'est le bonheur et la grâce qui m'accompagnent. Comme ils accompagnaient Joseph. Vous connaissez l'histoire de Joseph. Il est écrit dans la Bible que Joseph était béni de Dieu et que tous ceux, oui, quand il vivait chez quelqu'un, la grâce venait dans la maison où il vivait. Le bonheur venait dans la maison où il vivait et ceux qui l'accueillaient se mettaient à prospérer eux aussi. Voilà, c'est comme ça. Eh bien, parce que ce qui était en lui débordait sur les autres. Et qu'est-ce qui est en vous? Ce qui est en vous doit déborder sur les autres. Alors, si c'est des démons, c'est toujours des problèmes, des plaintes, et des... alors c'est difficile de vous côtoyer. Mais si c'est le bonheur et la grâce, les gens vont chercher votre compagnie. Et vous ne serez plus tout seul. Mais c'est une affaire de croyance. C'est une affaire de foi. Je crois ce que la Bible dit et non pas ce que je peux ressentir ou ce que les gens ont raconté. Je crois ce que la Bible dit. La grâce et le bonheur débordent de vous et coulent sur les autres quand vous observez les règles de vie de disciples fidèlement. Pas automatiquement, c'est pas automatique. Il y a des règles et si vous observez les règles, eh bien ça marche. C'est pour tout la même chose. Si vous avez quelque chose dans vos mains, il y a une règle qui dit que si vous écartez les doigts, la chose que vous avez dans vos mains, ben, elle tombe. C'est impossible que ça n'arrive pas. Et heureusement que ça n'arrive pas. Parce qu'en ce moment, s'il n'y avait pas cette loi, eh bien, ma Bible volerait au plafond, je vais courir pour aller la chercher, je sais pas, moi, tout ce qui est là, ça irait n'importe où. Non, il y a des règles. Il y a des lois, la loi de la pesanteur, la loi de la gravité, la loi... Toutes ces lois-là sont bonnes et les lois de Dieu sont bonnes, mais si on ne les observe pas, si on ne joue pas le jeu, ben évidemment, ce n'est pas la grâce et le bonheur qui nous accompagnent. Vous voyez ? Ce n'est pas compliqué. Il n'y a pas de mystère. C'est tout simple. Alors, la grâce et le bonheur m'accompagnent et coulent sur les autres. La Bible dit que nous sommes des ambassadeurs pour Christ, c'est-à-dire nous sommes envoyés. Un ambassadeur, moi j'ai un ami burkinabé dont le fils était guéri, quand j'ai prié pour lui, il avait une méningite, c'est ça? Et il a été guéri miraculeusement. Cet homme est monté à Paris pour me remercier, etc. Et puis ensuite il a progressé, il était ministre de je ne sais plus quoi là-bas au Burkina. Il a progressé, il est devenu ambassadeur aux États-Unis. Eh bien, c'est quoi un ambassadeur du Burkina aux États-Unis? Eh bien, c'est un homme burkinabé qui vit aux États-Unis et qui représente son pays. Oui ou non? Mais il est à l'étranger. Et nous, sur la terre, nous sommes des pèlerins étrangers. Nous sommes étrangers sur cette terre. Le prince de ce monde, c'est pas Dieu, c'est le diable. Et nous sommes des ambassadeurs de Christ pour apporter la lumière, la bonne nouvelle, le bonheur et la grâce qui doivent couler de nous. Et on est des ambassadeurs de Christ pour ça. Nous sommes des envoyés. En cela, le mot envoyé, c'est le mot ange. C'est le même mot en hébreu. Nous sommes des envoyés de Dieu dans ce monde. Nous sommes envoyés par le roi des rois. C'est pas rien. Voilà ce que nous sommes. La bannière qui flotte au-dessus de votre ambassade, c'est la bannière de Jésus-Christ, le drapeau de Jésus-Christ. Quand je vais à l'ambassade suisse, parce que je suis suisse, quand je vais à l'ambassade suisse à Paris, je la vois de loin. Vous savez pourquoi ? C'est une maison très belle, comme toutes les maisons de ce quartier, parce que l'ambassade suisse ne se trouve pas dans un quartier pourri, vous vous en doutez bien. Eh bien, quand j'arrive dans la rue, la première maison que je vois, tout au bout là-bas, c'est l'ambassade suisse. Pourquoi ? Parce qu'il y a le drapeau suisse qui flotte au-dessus. C'est normal ! C'est l'ambassade suisse, il y a le drapeau. Et je le vois de loin, l'ambassadeur suisse, il n'enlèvera jamais le drapeau de l'ambassade. Il doit être visible, ce drapeau. Parce que, et puis même s'il ne s'appelait pas au voisin, et même s'il ne s'appelait pas à l'ambassadeur, même si lui voulait être discret, et puis voilà, puis s'il dit « Ah, mais non, je ne veux pas mettre le drapeau suisse parce que je ne voudrais pas passer pour un nationaliste », c'est loin de ses pensées, il est fier de son pays, il montre son drapeau, c'est bien en vue, là, comme ça, et c'est très bien, c'est normal, un ambassadeur est fier de son pays, fier de son drapeau, et un disciple de Jésus est fier du royaume de Dieu sur la terre, c'est-à-dire de la communauté, c'est-à-dire de l'Église, et la bannière qui flotte dessus, on va dire, tiens, psaume 20, verset 6. Psaume 20, verset 6. Nous nous réjouirons de ton salut, nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu, l'Éternel exaucera tous nos voeux. Amen. On lève notre étendard, on ne cache pas, on montre, on dit qu'on est chrétien, on est fier de ça. Les gens nous prennent pour des imbéciles, mais nous on rigole. T'as vu qui c'est qu'une traite d'imbécile? La vie qu'il a, il nous dit que j'ai moi l'imbécile. Ça me fait rire, ça nous fait rire. Mais on est gentil, on est poli, on se moque pas trop. On rigole après. On leur rigole pas, on est bon, on est gentil quand même, on est poli, on était bien éduqués. Voilà, alors, un disciple de Jésus est fier du royaume, il est fier de Jésus-Christ, il est fier de son appartenance à la véritable Église de Jésus-Christ. Nous élevons notre étendard, notre drapeau, le drapeau de notre Dieu, nous témoignons de lui chaque jour. C'est normal, nous témoignons en action, nous témoignons en faisant le bien, c'est-à-dire, nous témoignons aussi en parlant, et nous disons aux gens comment faire pour être sauvés, comment faire pour être guéris. L'autre jour, j'ai mis sur Révélation Bible un article où je dis aux gens, cliquez sur ce lien et vous allez avoir le livre de T.L. Osborne, Comment recevoir la guérison miracle. Alors, il y a quelqu'un qui m'écrit, le miracle, c'est tout le pognon qui s'est fait avec ce bouquin. Mais je lui ai dit, mais vous êtes répugnant, monsieur, vous ne connaissez même pas T.L. Osborne et vous vous permettez de publier devant tout le monde une réflexion comme ça. Vous ne savez pas le bien que cet homme de Dieu a fait pour des milliers et des milliers de personnes. Et en plus, c'est ce que je vous dis d'acheter le livre, donc je vous l'offre. Alors non seulement je vous l'offre, d'ailleurs maintenant non, je ne vous l'offre pas, et puis je vous vire. Puis je les virerai, voilà. Ah, Michel, t'es dur, oui. Il ne faut pas pousser trop loin le bouchon. Faut pas pousser. Insulter un homme de Dieu comme ça? Non mais, c'est quoi ce cirque? Alors, nous sommes fiers de notre Seigneur, nous sommes fiers des gens de l'Église qui sont des gens bien, parce que dans l'Église aussi des gens qui sont pas terribles. Mais nous les supportons, nous les aimons, nous les aidons à progresser, et voilà. Nous témoignons donc en faisant le bien, en parlant de Jésus, comment il peut nous sauver, comment il peut nous guérir. Nous n'arrêtons pas, on ne se laisse pas décourager par cette sorte de réflexion complètement idiote. Mes frères et sœurs, si vous n'êtes pas disposé à témoigner de votre Dieu et de votre foi, à la maison, au bureau, au magasin, partout là où vous allez, c'est que vous n'êtes pas un ambassadeur. Vous ne tenez pas votre rôle d'ambassadeur. Vous êtes un ambassadeur qui fait pas son rôle, qui tient pas son rôle. Vous devez prendre position. Je me rappelle, on s'est trouvé une fois dans une situation, dans la communauté, il y en a qui disaient, moi je ne peux pas prendre position. Il faut prendre position. Hein? On doit prendre position. On ne peut pas être tiède. Il faut prendre position dans la vie. Vous devez faire savoir à ceux qui vous entourent que vous êtes un disciple de Jésus parce qu'il voit votre honnêteté. Il voit que vous êtes gentil, il voit que vous êtes bien. Mais si vous ne dites pas que c'est parce que vous appartenez à Jésus et que c'est Jésus qui vous a changé, les gens vont dire « Ah, qu'est-ce qu'il est bien cet homme, ah, qu'est-ce qu'il est bien cette femme ?» Et toute la gloire vous revient à vous. C'est pas normal. Toute la gloire va revenir à Jésus. Donc, c'est pas difficile de dire « Oh ben vous savez, on est chrétien ou on ne l'est pas. Ah bon, vous êtes chrétien ?» Oui, j'ai fait la paix avec Jésus. C'est tellement facile de le dire. Puis les gens vous regardent avec des yeux comme ça. Et alors, qu'est-ce que ça fait? Il y en a toujours quelques-uns qui sont émerveillés et qui sont contents de vous écouter. Et puis même il y en a qui changent, qui se convertissent. Alors, tous ceux qui sont là sont convertis parce qu'un jour quelqu'un leur a témoigné. C'est comme ça dans la vie. Et c'est comme ça que ça se passe. D'ailleurs, on a reçu le Saint-Esprit pour être des témoins. N'est-ce pas? Pas pour parler en langue. Bien sûr qu'on parle en langue quand on a reçu le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas le but. Le but, c'est d'être des témoins. Alors, comme je le disais, notre témoignage, on témoigne de deux manières, par notre vie, par notre vécu, et aussi par nos paroles. Une seule manière ne suffit pas. Si vous ne faites que de parler, mais que votre vie est une vie de patachon, ce que vous dites est détruit. Si vous ne parlez pas, mais que vous avez une bonne vie, toute la gloire revient à vous. Donc il faut les deux. Il faut parler et aussi vivre, que les gens voient que votre vie est un bon témoignage. Dieu veut qu'après votre conversion, vous témoignez de sa grâce, vous témoignez de sa puissance. Vous allez passer pour un orgueilleux. Moi je dis, depuis que je suis converti, le troisième jour, j'ai prié pour mon premier paralytique qui s'est mis à marcher. Et j'ai commencé à le raconter tout de suite, mais tout de suite. Et les gens disent, oh mais t'es orgueilleux, tu dis que Dieu t'écoute et tout. Non, je suis pas orgueilleux, je témoigne que Dieu répond à ma prière, c'est pour glorifier Dieu, c'est pas pour me glorifier. Vous aurez toujours des gens tordus qui vont dire que vous avez un intérêt à parler de Jésus, c'est parce que vous voulez piquer leur pognon pour faire des bonnes œuvres ou ceci. Vous aurez toujours des gens bizarres. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Nous sommes là pour donner la parole de Dieu, semer la parole de Dieu, témoigner au sujet de Jésus-Christ, ce que les gens pensent et ce qu'ils en font. Mais alors, c'est pas grave. S'il y en a seulement un qui se convertit, quel bonheur, hein, quel bonheur. Alors, Dieu veut qu'après votre conversion, vous soyez, vous commencez à témoigner. Vous devez être pour Christ. Vous devez être un soldat, en première ligne, toujours prêt. On va lire dans Matthieu 10, 32. Alors, Matthieu 10, 32, je prends ma Bible. Et il est écrit là. C'est Jésus qui parle et qui dit, c'est pourquoi quiconque se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour lui devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque, enfin, vous lirez la suite. C'est-à-dire que vous n'êtes pas parfait, moi non plus, mais comme je témoigne de Jésus, comme j'en parle publiquement, eh bien Jésus, il parle de moi, il parle de moi devant son Père, il dit, bon, c'est vrai, il n'est pas parfait, mais il fait des progrès, puis regarde, il a... Et il plaide pour moi, il est mon avocat, il plaide pour moi. Mais il ne plaide pas pour moi si moi je ne parle pas de lui, si je ne témoigne pas de lui. Vous comprenez ça? C'est important. Si vous voulez que Jésus-Christ parle de vous au Père Céleste, il faut que vous, vous parliez de lui aux gens. C'est ce que Jésus dit, c'est le principe, c'est la règle. Et si vous allez contre la règle, ben vous allez... Il y a quelque chose qui va manquer à votre vie va être bancale, puis vous allez dire, oui, mais alors pourquoi Dieu est amour, pourquoi il m'arrive tout ça? Parce que vous n'observez pas les règles, c'est tout. Que vous soyez chrétien ou que vous ne soyez pas chrétien, si vous n'observez pas les règles, il va vous arriver. Supposons que vous montiez au 50e étage d'une tour et que vous vous jetez en bas, que vous soyez chrétien ou pas, vous allez vous écraser en bas. C'est pas l'affaire d'être chrétien ou pas. C'est que vous avez brisé une règle, on ne fait pas des choses comme ça, on ne se jette pas en bas d'une tour de 50 étages, c'est tout. Parce qu'il y a des lois qui font que vous allez tomber et puis que vous n'allez pas vous envoler comme Superman, ça n'existe pas. Hein? Et vous allez vous écraser misérablement comme une tomate pourrie. Et puis voilà, puis après tout le monde dira, ah ben, il n'y avait pas la foi. Ben, ce n'est pas une question de foi, c'est une question d'imbécilité. Donc, il faut observer les lois, les bonnes lois de Dieu pour avoir une bonne vie harmonieuse qui est bien. Alors, être un soldat en première ligne, toujours prêt à témoigner. C'est compris? D'accord. On va plus loin. Regardez ce que faisaient les premiers chrétiens. Prenez Paul. Paul, il était en prison parce qu'il témoignait de Jésus-Christ. Parce qu'à l'époque, c'était très dangereux, un petit peu comme maintenant dans certains pays du Nord. N'est-ce pas? Vous savez, dans le Nord. Hein, vous l'avez vu, la terre n'est pas plate, elle est ronde. Puis au Nord, il y a des gens très, très, très méchants qui tuent les chrétiens. Vous savez ça? Non, je plaisante, c'est pas au Nord que ça se passe. Hein. Mais ils sont persécutés parce qu'ils parlent de leur foi. Parce qu'ils vivent leur foi. Mais les premiers chrétiens, c'était la même chose. Il y avait aussi une bande de sauvages qui massacraient les gens simplement parce qu'ils témoignaient de Jésus-Christ. Et Paul a été combien de fois en prison à cause de ça? Il était en prison, mais il nous est dit dans Actes 28, 33 qu'il parlait de Jésus à tout le monde, nuit et jour, tout le temps. Il continuait, il ne s'arrêtait pas, il ne disait pas « Ah bon, je suis en prison, eh ben, puis c'est comme ça, ah bon, ben, moi j'ai témoigné, puis voilà la récompense, voilà ce que tu me fais Seigneur, ah ben, c'est pas gentil, ben, puis c'est comme ça, je boude. Je boude, je parle plus de toi, voilà. » Non, il continuait. Il continuait encore à témoigner. Nous sommes, David le dit, des semeurs de la parole de Dieu. On devrait pouvoir dire de chacun de nous, un semeur est sorti pour semer, comme c'est dit dans Matthieu 13, 4. Vous êtes des semeurs de la parole de Dieu. Quand vous sortez de votre maison, c'est pour semer la parole de Dieu. Vous allez faire des courses, c'est pas difficile de dire quelque chose au sujet de Jésus à la caissière, c'est pas difficile de dire quelque chose de gentil au conducteur de bus. Toujours avec Michon, on a pris le bus. Mais voilà, mais c'était tellement simple de dire quelque chose au sujet de Jésus. Prenez un facteur. Bon, prenez un facteur. Il ne peut pas se permettre d'avoir beaucoup d'originalité. Le facteur. Son unique obligation, c'est de porter le message qu'il a reçu aux personnes auxquelles ils sont adressés, ces messages. Le message peut ne pas plaire au facteur. Parce que souvent, ça arrive, le facteur, il reçoit une carte, vous savez, ces enveloppes bordées de noir, bon, on n'aime pas trop apporter ça chez les gens, parce qu'on sait que voilà, ça va faire du chagrin. Ou alors une lettre d'un huissier. Mais le facteur, il doit faire son boulot. Il doit apporter le courrier aux gens. Et nous aussi, on doit apporter la bonne nouvelle aux gens. Et dans la bonne nouvelle, il y a des choses désagréables à dire. C'est que les pécheurs, s'ils persistent dans leur péché, ben, ils iront en enfer. Alors, c'est pas rigolo de dire ça, mais on doit le dire. Le facteur, il fait son boulot, même s'il y a des nouvelles qu'il doit apporter qui sont pas bonnes. Il s'arrêtera pas en chemin, le facteur, pour changer quelques mots dans le télégramme ou sur la lettre pour que ça passe mieux, pour que ça fasse plus gentil. Non, il apporte la lettre telle qu'elle est. Et son devoir, c'est de porter le message. Et nous, à nous, Dieu dit, allez et portez ce message à ce monde qui meurt. Et on n'a pas à le maquiller, à dire non, ne vous inquiétez pas, Dieu est bon, Dieu est gentil. Non, il faut aussi dire qu'il est juste. Hein? Malheureusement, il y a beaucoup qui négligent cet ordre, puis il y en a d'autres qui trahissent le message en y ajoutant des trucs, hein? Et puis d'autres, ben, ils retranchent des trucs. Ouais, c'est comme ça, ça existe. Hein? D'autres ne délivrent qu'une partie du message. Certains disent aux gens que oh non, ne vous inquiétez pas, Jésus ne pensait pas vraiment ce qu'il disait. C'est invraisemblable. D'autres disent, oh, vous savez, Jésus n'a jamais vraiment rien écrit lui-même. C'était des hommes qui ont écrit, qui ont raconté ce qu'ils ont vu, ils ont pu se tromper, ils ont pu... Faut pas prendre vraiment très au sérieux, n'est-ce pas, ce qui est écrit dans la Bible. Non, nous avons à témoigner de ce que nous savons au sujet de Jésus-Christ. Et ce que nous le savons par la Bible. On ne sait pas en lisant « voici » ou « gala ». Ou en regardant sur YouTube la vie de l'autoproclamé prophète Tartampion qui vient vous raconter ses idées. La Bible. Frères et sœurs, notre travail est de semer la parole, de semer le message du Seigneur Jésus-Christ. Ce sont des graines qui vont produire du fruit dans le cœur des gens. Alors il y a quelques semences qui peuvent tomber dans les ronces, il y a quelques semences qui peuvent tomber sur des terrains qui ne sont pas favorables, ça on le sait, c'est normal, mais notre travail c'est de continuer à semer, de ne pas se décourager, de continuer. Nous ne devons pas nous arrêter parce que certaines personnes nous insultent ou parce que certaines personnes se moquent de nous ou même nous menacent. Là encore cette semaine, il y en a un qui m'a menacé sur Révélation Bible. Ah, quand on annonce l'évangile, on dérange, hein. Nous portons aussi, la Bible dit, la lumière. Et nous devons laisser cette lumière briller. Si j'ai une lampe et puis que je la mets sous le lit, ça va pas beaucoup éclairer la chambre, hein. Vous êtes d'accord? Donc, une lumière, on la met le plus haut possible pour que ça éclaire tout. Eh bien, nous devons nous montrer. Ah, vous avez passé pour des orgueilleux, mais c'est pas grave. Vous savez, et Dieu sait que vous n'êtes pas orgueilleux. Vous êtes simplement témoin. Même si vous pensez que votre lumière, c'est qu'une toute petite lumière, une toute petite bougie qui ne vaut rien du tout. C'est une lumière, elle doit briller dans ce monde de ténèbres. Et notre tâche est de briller. Même si vous pensez, oh, je n'ai pas grand chose à dire. Si, dites que vous aimez Jésus, dites que Jésus vous a sauvé de vos péchés, que maintenant vous avez l'assurance de la vie éternelle et que ce qu'il a fait pour vous, il peut le faire pour les gens, etc. C'est pas difficile à dire. La Bible dit aussi que nous sommes des sonneurs de trompettes. Nous sommes au milieu d'un vacarme que fait ce monde. Le monde a un vacarme terrible. On est informé de partout. Là, tiens, notre télé vient de tomber en panne. Il faudra qu'on la change. Ça va nous faire des vacances pendant quelques jours. Mais c'est un vacarme. Tout le temps, des informations, tout le temps. Et nous, la Bible dit que nous sommes des semeurs de trompettes au milieu de ce vacarme, c'est-à-dire nous devons continuer à donner l'alarme à ceux qui sont en danger, qui ne se rendent pas compte, qui vont comme ça, ils suivent comme des moutons, n'importe qui, n'importe quoi, et ils vont tomber dans un trou. Il faut les avertir. La Bible dit que nous sommes aussi des allumeurs de feu dans ce monde froid. Dans ce monde de haine, d'égoïsme, nous devons maintenir notre flamme, notre feu allumé. Il dit aussi que nous sommes des manieurs d'épée. Alors, il se peut que vous pensiez qu'avec votre épée, vous brassez l'air, que vous ne faites rien de vraiment efficace et que ça ne sert à rien, mais vous ne devez pas cesser de le faire. Nous ne devons pas lâcher l'épée de l'esprit, nous devons l'avoir tout le temps avec nous. Je vais vous dire un truc pour vous choquer, pour que vous en souveniez. Est-ce que vous avez vu les films d'Harry Potter? Oui, hein? Est-ce qu'Harry Potter, des fois, il oublie sa baguette magique? Jamais! Il a toujours sur lui. Il a des gants de bois. Eh bien, un chrétien, ce n'est pas une baguette magique qu'il a, c'est l'épée de l'esprit, il doit toujours l'avoir avec lui. Toujours prêt pour pouvoir tailler. C'est nous aussi, la Bible dit, qui avons, nous avons le pain pour ce monde affamé, un pain spirituel, mais aussi un pain matériel. Je pense que des fois, je vois que les gens sont très occupés à se nourrir d'autres choses que de la parole de Dieu, et ils ne veulent pas accepter le pain de la parole de Dieu que nous leur donnons. Mais ce n'est pas grave, nous devons continuer à donner, à offrir aux gens ce pain. Hier, des gens sont venus pour nous influencer, pour que nous entrions dans leur église, mais nous avons un pain qu'ils feraient bien de manger eux-mêmes. Non ?
Oui.
Alors, c'est vrai qu'ils ont des choses qui sont intéressantes et qu'on va prendre, mais il faut qu'ils prennent aussi ce que nous avons. Nous avons un pain extraordinaire à donner aux gens. Nous devons persévérer, ne jamais abandonner, continuer toujours à proclamer la bonne parole de Dieu. Nous devons être des gagneurs d'âme pour Jésus. Ça, c'était une expression que T.L. Osborne aimait. Aller gagner des âmes pour Jésus. Vous savez, frères et sœurs, la plus belle expérience qu'un homme, une femme ou un enfant peut faire en tant que chrétien, c'est de gagner quelqu'un à Jésus. C'est la plus belle chose qui peut vous arriver. Moi, j'ai gagné des milliers de gens à Jésus, mais à chaque fois, je suis bouleversé. Quand je suis en train de témoigner en tête à tête avec quelqu'un, que je vois que la personne dit « Oui, c'est vrai, tu as raison », je dis « Bon, ben, on va prier », et que cette personne donne, ça me bouleverse. Quand je suis devant des foules et que je vois que les gens se lèvent, s'approchent, viennent devant pour prier, ça me bouleverse à chaque fois. C'est une joie, c'est la plus grande joie. C'est même plus grand que de voir un aveugle qui retrouve la vue. J'en ai vu des aveugles retrouver la vue, mais je vous promets devant Dieu, c'est vrai, de savoir qu'une personne passe des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, qu'elle vient de la perdition pour entrer dans le salut parfait de Jésus, c'est la plus grande joie qu'on peut avoir. Faites-le, vous voulez avoir de la joie dans votre vie, faites ça. Vous aurez quelques échecs, et alors ? Et alors ? Voilà. Ça, c'est la cinquième règle pour avoir une belle vie de disciple de Jésus. Ne prenez pas ça à la légère, mes frères et sœurs. Vous avez reçu le Saint-Esprit pour être des témoins, c'est ce que Jésus dit. Il ne dit pas, et vous recevrez le Saint-Esprit pour avoir la force de vous lever tous les dimanches et de vous mettre une cravate et d'aller poser votre gros derrière dans l'église. Non, 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 non. Il ne dit pas ça. Il dit, vous recevrez le Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Dans le monde entier, ça va vous faire voyager en plus. Vous allez pas reçu le Saint-Esprit pour pouvoir avoir le pouvoir de parler en langue tout seul dans votre chambre. Bien sûr que moi aussi je parle en langue, tous les jours. Mais ce n'est pas pour ça que j'ai reçu le Saint-Esprit. Le parler en langue, c'est un don qui nous est donné pour nous fortifier. Parce que quand on va témoigner, eh bien on dégage la force, on dégage la puissance, on dégage et on se fatigue aussi. Moi, quand je témoignais en Afrique, croyez-moi, ça me fatigue. Des 45 degrés à l'ombre, c'est fatigant. Pendant 9 heures à prêcher, c'est fatigant, parce que là-bas, ils en veulent. Hein. Ils ne veulent pas des petites prédications de 20 minutes. Et ben après, je parle en langue pour me fortifier. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Alors, il y en a qui se moquent de ça. Mais continuez à vous moquer. Continuez. Vous avez raison. Je regarde votre vie, et moi, je rigole aussi. Qu'est-ce que c'est que votre vie? Vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit pour autre chose que pour être des témoins. Vous avez reçu le Saint-Esprit, c'est-à-dire Christ qui vit en vous, pour prolonger les jours de Jésus-Christ sur la terre. Vous allez me dire, ah bon, mais qu'est-ce que c'est encore que cette doctrine? Ben, ce n'est pas une doctrine, c'est ce que la Bible dit, tout simplement. On va lire Ésaïe 53, et je vais terminer là-dessus. Il est dit... il a été frappé pour mon peuple, donc Jésus, hein, on a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'ait commis aucune violence, il n'y avait point de fraude dans sa bouche, et il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasira ses regards. Jésus s'est donné en sacrifice pour vous, il est mort à votre place, et maintenant, il veut par son esprit vivre en vous et prolonger ses jours au travers de vous. Hier, quelqu'un me disait, « Mes frères, la prêtrise, c'est une chose très importante. Est-ce que vous avez reçu la prêtrise de Aaron, de Melchisedec et toutes ces choses ?» Je dis, « Mais à quoi ça sert ?»« Mais ça vous donne le droit d'agir au nom de Jésus. » Je dis, « Mais ce droit, Jésus nous le donne dans la Bible. » Je dis, « Combien d'entre vous dans votre église ont reçu cette imposition des mains pour recevoir cette prêtrise et n'imposent jamais les mains aux malades pour que les malades soient guéris ? Pourtant, ils ont le droit, ils ne le font pas. Pourquoi ?» Pourquoi ? Vous voyez, il y a des incohérences chez les chrétiens. Il y a des incohérences. Prenez simplement ce que disent les Écritures et vous serez bénis, heureux. La grâce et le bonheur vous accompagnera toujours de votre vie. Amen, amen, amen. Merci Jésus de bénir mes frères et sœurs et de les aider à comprendre que ce n'est pas difficile, que c'est un mensonge du diable qui leur dit qu'ils n'y arriveront pas. Ce n'est pas difficile d'ouvrir sa bouche et de dire un mot gentil, de dire que vous êtes chrétien. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au revoir mes frères et sœurs.